RFI.fr. Vous pouvez également y retrouver des exercices pour apprendre ou parfaire votre français. Il est 18h10 à Paris. Merci d'écouter RFI. Tout de suite, c'est Radio Foot International.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présenté par Pierre Benoît.
Nouvelle semaine d'agitation locale sur le 101.5 FM, en tout cas pour ce qui concerne la tranche horaire 18h10-19h. Vous le savez, Radio G vous accompagne globalement tout le temps en culture et en vie locale tout au long de la journée. Mais nous, précisément, on accueille des invités qui animent le territoire, qui font bouger la ville, qui l'animent culturellement également. Ce sera le cas notamment avec le sujet, on en voit partout les affiches. Aubusson, Tis, Tolkien, nous serons avec Luce Pintor, la conservatrice du patrimoine de la ville d'Angers, des musées de la ville d'Angers, qui va nous parler de cette exposition qu'elle a initiée, m'a-t-elle dit juste avant qu'on prenne l'antenne. Ça, ce sera le sujet central. Et puis en deuxième partie d'émission, on va être avec Fabrice Le Petrec, qui organise le 30 avril le forum, qui co-organise précisément le forum emploi et santé mentale. L'occasion d'en parler. On a l'affiche sous les yeux, on a aussi les badges, et puis il est devant le micro, prêt à prendre la parole. Mais avant tout ça, on va dire bonjour à une voix qu'on n'avait pas entendue depuis combien d'années maintenant ? Bonsoir Sidonie.
Bonsoir.
Sidonie, c'est bien ton prénom. Hein.
Ouais, je crois. Hein.
J'ai peur de l'avoir.
C'est qui celle-là ? Elle vient d'où ? Mais...
Bon, j'ai cessé de dire que tout allait bien et comme le temps passait, les gens s'inquiétaient. J'ai dit non, rassurez-vous, tout va bien, elle est bien de retour. Tranquillement. Aujourd'hui,
mais sûrement.
Voilà, presque auditrice de l'émission, mais à partir de demain, tu reprends la main sur le Flash Info. Pas ce soir, parce que c'est Astrid qui va nous faire le point sur les actualités locales dans quelques instants. Normalement, je dis normalement parce qu'il n'est pas encore arrivé, nous avons Mathieu de Let's Game pour la chronique de Let's Game autour de 18h30 environ. Et sinon, bah, Topette, c'est parti pour ce soir et cette nouvelle semaine.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et donc, l'info avec Astrid ce soir.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
À Angers, la transformation du centre-ville se poursuit. Après les travaux engagés sur la place, les places Kennedy et la rue Toussaint, la ville lance désormais le réaménagement de la place de l'Académie. Objectif, repenser totalement cet espace à l'entrée du centre-ville en réduisant la place de la voiture au profit des piétons, des cyclistes et des transports en commun. Concrètement, la circulation automobile sera limitée avec moins de voies et la mise en sens unique de certaines rues, notamment pour fluidifier l'accès à la gare. Résultat, entre 150 et 170 places de stationnement en surface devraient disparaître, en partie compensées par le nouveau parking du château. Autre axe fort du projet, la végétalisation. Près de 70 arbres seront plantés pour créer des espaces plus verts et plus agréables. Les premiers travaux doivent débuter dès le mois de juin, avant le lancement du chantier principal en fin d'année. C'est un projet qui s'inscrit dans la continuité des transformations déjà engagées en centre-ville. Et maintenant, si vous cherchez une sortie à la fois agréable et engagée, direction le château de Martreuil. Le domaine ouvre les portes de son parc du 8 au 10 mai dans le cadre de l'opération nationale Neurodon. Pendant 3 jours, chaque billet d'entrée permettra de soutenir la recherche sur les maladies du cerveau avec 2 euros reversés à la Fédération pour la recherche sur le cerveau. C'est une initiative solidaire qui existe depuis plus de 20 ans en partenariat avec les parcs et jardins de France qui ont déjà permis de récolter plus de 600 000 euros. Mais au-delà de cet engagement, c'est aussi l'occasion de découvrir un site naturel remarquable s'étendant sur 37 hectares et abritant une grande diversité d'espèces végétales. Le lieu propose différentes formules de visite entre balades botaniques et jeux de piste pour petits et grands. Et on termine avec du sport et une belle ambiance du côté de l'Ice Park. J'espère que vous avez pu assister ce week-end aux 2 matchs de l'équipe de France de hockey qui affrontait l'Italie pour se préparer au Mondial Division 1A. Mais si ce n'est pas le cas, pas de panique, j'y étais pour vous et voici le récap. Les Bleus ont parfaitement conclu cette préparation à domicile en s'imposant 4 buts à 2 ce dimanche 26 avril. La veille déjà, ils avaient dominé cette même équipe italienne sur le score de 5 à 2. Dimanche sur la glace, les Français ont su faire la différence dans le dernier tiers-temps pour renverser le match avant de s'envoler pour la Pologne. Une double victoire encourageante sous les yeux d'un public angevin, venu en nombre pour soutenir les tricolores. À noter aussi une belle représentation locale avec 3 joueurs des Ducs d'Angers, Lucien Ono, Nicolas Ritz et Théo Sarliève. Désormais, les Bleus vont tenter de décrocher l'une des deux places qualificatives pour rejoindre l'élite mondiale du hockey en 2027.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Astrid, du coup, d'avoir été notre envoyée spéciale sur ce match. On se revoit dans 2 semaines.
Eh ben non.
Donc c'est la dernière.
Partielle, oui.
Bon bah merci pour ton engagement sur cette saison et puis bon courage pour ton stage. Ouais. Stage qui va se passer dans un média aussi, hein, je crois.
Oui, une radio dans le sud-ouest.
Bon bah écoute, si t'es pas pressé et que tu veux rester avec nous, profiter des derniers moments d'antenne sur le 100.5 FM pour toi, rassurez-vous, le 100.5 FM continue d'émettre. Eh ben reste avec nous, justement, on accueille nos invités maintenant.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et notre invitée s'appelle Luce Pintor. Bonsoir Luce.
Bonsoir.
Tu es la conservatrice du patrimoine de la ville d'Angers, des musées de la ville d'Angers, responsable collection textile et tapisserie. Précisément, c'est des titres à rallonge, mais qui décrivent bien aussi tes activités. Activités très intenses en ce moment, puisque du coup a lieu l'exposition Aubusson Tisse Tolkien. C'est du 10 avril, donc depuis le 10 avril, jusqu'au 8 novembre 2026. On a le temps d'en profiter, mais on sait déjà que ça crée de l'animation, de l'agitation, que ça crée l'emballement aussi. Tu vas pouvoir nous en parler, bien évidemment, puisque tu me le disais avant de commencer cette émission, tu es à l'origine, c'est toi qui as un petit peu fait cette proposition. Alors, j'ai découvert des choses, parce qu'on sait qu'il y a, donc c'est au musée Jean Lursa, à Angers, près de la place La Rochefoucauld, ancien hôpital Saint-Jean, voilà, à l'époque médiévale et sous l'Ancien Régime, qui accueille donc les tapisseries de Jean Lursa. Jean Lursa qui était donc un tapissier, artiste, tapissier, je ne sais pas si on peut dire ça.
Il était peintre. Peintre à l'origine et peintre cartonnier ensuite, c'est-à-dire qu'il faisait les maquettes des tapisseries, mais ce n'est pas lui qui les tissait. Pour ça, il se reposait sur le savoir-faire des artisans lissiers, en l'occurrence pour le Champ du Monde, sur le savoir-faire des artisans d'Aubusson.
Et c'est pour ça que tu es là, justement, parce que je suis bien ignorant en la matière, donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Aubusson, par exemple, je pensais que c'était un artiste, mais pas du tout. C'est la ville, c'est la cité internationale de la tapisserie. Et c'est là qu'est né, non pas Jean Lursa, mais le Champ du Monde. La tapisserie, en fait, elle a été faite là-bas.
Voilà.
Elle est exposée à Angers habituellement à l'hôpital, enfin au musée Jean Lursa, hein, c'est le nom. Mais là, elle est retournée à la maison, d'une certaine façon. Et en échange, il y a eu tout un tas de choses. Donc là, voilà, c'est là que commence ton travail de communication pour nous expliquer Aubusson Tisse Tolkien, cette exposition. On parle de la genèse, peut-être. Comment est née cette idée?
Alors la genèse, elle est arrivée lors d'un premier partenariat avec la Cité internationale de la tapisserie en 2024, quand nous avons fait l'exposition Aubusson Nouvelle Génération. Déjà là, nous avions emprunté des œuvres à la Cité internationale dans leur fond contemporain pour justement essayer de montrer l'art de la tapisserie sous un nouveau jour, un nouveau angle et dépoussiérer peut-être un petit peu l'image de cet art ancestral, mais que peut-être les gens connaissent du coup moins bien. Et c'est lors de la préparation de ce projet d'exposition que nous avions commencé à réfléchir à un partenariat plus large. Les équipes de la Cité internationale étaient très intéressées par, en effet, accueillir les tapisseries du Champ du Monde qui n'étaient jamais retournées sur leur lieu de création. C'est le grand chef-d'œuvre de la ville d'Angers. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu, nous, accueillir et présenter donc dans la salle des malades en échange? Et c'est là où on a eu l'idée de présenter l'intégralité de la tenture tolkienne qui était alors en train de s'achever dans les ateliers. Elle a été exposée à Aubusson en intégralité en 2024 et nous l'accueillons aujourd'hui à Angers.
Et Tolkien, on est bien d'accord qu'on fait référence à l'écrivain. C'est un écrivain, j'ai
absolument
perdu sur le terme.
Non, oui, c'est ça, c'est
du Seigneur des Anneaux.
Exactement, c'est ce célèbre écrivain anglais qui est né, coïncidence, la même année que Jean Lursa, en 1892. Ce sont deux témoins de leur temps qui ont tous les deux, entre autres, combattu lors de la Première Guerre mondiale, mais qui ont aussi marqué leur domaine artistique. Et pour Tolkien, il a eu en plus un regain de popularité incroyable grâce aux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Peter Jackson, qui a fait connaître son œuvre encore plus au grand public. Et là, en fait, avec ce projet qui a été initié par la Cité internationale de la tapisserie de Tisse tisser en fait ses dessins en tapisserie. Les œuvres tapisserie sont tissées des dessins de la main de Tolkien lui-même. Et c'était vraiment un projet qui permet aussi de faire découvrir un autre pan de son travail. On le connaît en tant que professeur, on le connaît en tant que linguiste, on le connaît en tant qu'écrivain. Maintenant, on le découvre aussi en tant qu'artiste plasticien quasiment.
Alors, ses œuvres, il a pu les voir ou pas, Tolkien ? C'était de son époque ou ça a été fait après sa mort ?
Les tapisseries. Tolkien est mort en 1973. Donc non, il ne les a pas vus. En revanche, lorsque la cité a eu l'idée de ce projet, ils se sont rapprochés du Tolkien Estate et plus particulièrement de Christopher Tolkien et de son épouse Bailly. Christopher Tolkien, c'est un des trois fils de Tolkien, mais c'est aussi son exécuteur testamentaire. Il s'est consacré une large partie de sa vie à trier, à classer et à publier les manuscrits inachevés et inédits de son père. Il a donné son accord très rapidement à ce projet de tenture. Il a sélectionné les dessins avec les équipes d'Aubusson et il a pu voir, avant son décès en 2020, 4 tapisseries tomber de métier. Et il était extraordinairement ému parce qu'il faut comprendre que pour nous, ce sont des dessins de la main de Tolkien, ce sont des illustrations extraordinaires. Pour lui, ce sont des souvenirs d'enfance. Le Hobbit, c'est une histoire que Tolkien avait inventée pour ses enfants avant qu'il aille se coucher. Et donc les illustrations, il les a découvertes petit garçon. Donc les voir à la fin de sa vie en tapisserie, ça a dû être une émotion extraordinaire.
Et voilà, émotion, c'est le terme que j'allais reprendre. Justement, émotion qu'on va pouvoir nous aussi, alors peut-être pas de manière aussi intense que le fils par rapport aux œuvres remises en tapisserie de son papa, mais qu'on va pouvoir en tout cas entreapercevoir, ressentir aussi cette émotion au travers de ce qui est exposé au musée Jean Lurçat en ce moment. Qu'est-ce qu'on voit là-bas jusqu'au 8 novembre ? On voit toutes les œuvres, il y a tous les formats, toutes les tapisseries possibles et imaginables. Est-ce que ça ressemble, entre guillemets, beaucoup au format qu'on pouvait déjà connaître avec Jean Lurçat ?
Alors, c'est pas du tout le même format. Et puis juste pour un rapide rappel à vos auditrices et à vos auditeurs, le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine est sur deux bâtiments qui sont côte à côte mais qui sont distincts. Donc dans la salle, l'ancienne salle des malades de l'ancien hôpital Saint-Jean, qui est cette grande salle médiévale du XIIe siècle, on peut voir la majorité des pièces de la tenture, c'est-à-dire 14 des 16 pièces. Et dans cette partie de l'exposition, on explique vraiment ce qui est représenté. Et quelqu'un qui n'a jamais lu Tolkien a les clés pour pouvoir comprendre quels sont les ouvrages, qu'est-ce que ça raconte et quelles sont les tapisseries, que racontent les tapisseries, avec déjà quelques clés de compréhension aussi techniques. Et dans la partie musée de la tapisserie contemporaine, là, on se focalise plutôt sur l'histoire de la création de cette tenture sous un angle technique. Concrètement, comment on passe des petits dessins de la main de Tolkien à ces tapisseries monumentales. Et là, on détaille toutes les étapes de création de ces tapisseries d'un angle technique et le public peut découvrir donc des facsimilés, des copies des dessins de Tolkien, mais également les cartons de tapisserie qui sont les maquettes et toutes les étapes de création ensuite de la tapisserie avec notamment tout le processus de sélection de l'atelier de tissage. La grande gageure pour ce qui est la partie celle des malades, c'était justement que les tapisseries de Tolkien, elles sont plus petites que les tapisseries du du monde. Celles de Jean Lurçat ont un format qui, dans la largeur, peut varier, mais par contre, en hauteur, elles sont relativement similaires. Elles sont très hautes, d'ailleurs, elles font plus de 4 mètres. En revanche, ce qui fait l'unité de la tenture Tolkien, ce n'est pas le sujet et ce n'est pas le format non plus, c'est les coloris. C'est la gamme de teinture, en fait, qui est toujours la même, qui est très restreinte et qui est toujours la même pour chaque tapisserie. Et c'est ça qui donne son unité à l'ensemble. En revanche, c'est vrai ce que vous dites, les formats sont, en revanche, très variés.
Alors, Luce, tu évoques le côté un petit peu détail technique, comment on part d'un dessin pour faire une tenture. Une tenture, hein, c'est le terme.
Une tapisserie. Une tenture, c'est l'ensemble d'une tapisserie.
Ok, on pourra continuer.
L'ensemble de tapisserie, oui, pardon.
Les définitions tout à l'heure. Hein, tu me reprends si jamais je me trompe sur les termes. Est-ce qu'il y a aussi de la mise en pratique, des ateliers, de la médiation autour de cette exposition ou pas ?
Au musée de la tapisserie contemporaine, c'est toujours le cas parce qu'on a la chance d'avoir un espace atelier de pratique. Alors, non seulement avec toute une programmation pour les scolaires, où il y a des visites, mais aussi des stages pratiques. Nous avons également aussi, comme chaque année, mis en place des stages à l'intention des visiteurs en groupe, avec différents niveaux selon qu'il y a des amateurs débutants en tapisserie ou alors au contraire des habitués du musée qui viennent quasiment à chaque exposition et qui cherchent à aller plus loin dans l'art du tissage de tapisserie. Et puis, à côté de ça, nous avons tout un tas d'événements et de programmations pour faire vivre cette exposition avec des concerts, des jeux qui seront organisés, même un stage pour apprendre l'elfique qui aura lieu à la fin de l'été. Et puis tout un cycle de 4 conférences également, dont la première a lieu demain soir à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts et qui va permettre de pousser plus loin la connaissance autour de Tolkien et de son univers.
Bon, j'imagine que ça ramène aussi peut-être un nouveau public fan de l'univers de Tolkien, du Seigneur des Anneaux.
Et... c'était le but, c'est que là on est vraiment sur le croisement entre quelque chose qu'on peut qualifier d'un art traditionnel et même classique, qui est l'art de la tapisserie, et la rencontre avec une culture populaire qui est la fantasy de l'œuvre de Tolkien. Donc effectivement, on a nos habitués qui fréquentent le musée de la tapisserie contemporaine, on a les amateurs de Tolkien qui viennent découvrir du coup l'art de la tapisserie dans nos murs, on a tout un public enfantin et surtout adolescent qui vient aussi franchir les murs du musée pour la première fois. Alors le succès est absolument au rendez-vous, on est en train de battre tous nos records de fréquentation. Mais
ça fait 17 jours seulement. Ça fait que 17 jours en plus que l'exposition est en route. Donc on...
Ah oui, mais c'est vraiment très très impressionnant le nombre de visiteurs qui se pressent. Alors c'est vrai qu'il y a l'effet vacances, puisque là on sort des vacances du printemps. Mais malgré tout, la fréquentation est vraiment record.
Bon, on verra si ça permet aussi de fidéliser, d'amener la curiosité quand le champ du monde reviendra.
On l'espère.
J'allais dire à sa maison, mais du coup sa maison est un petit peu entre deux mondes à la tapisserie.
Bah, pour le champ du monde, la ville d'Angers l'a acquis en 1967. Elle est présentée au musée Jean Lursa depuis 1968. Donc Angers, c'est bien sa maison. On va retrouver, le public angevin va retrouver le champ du monde début décembre dans la salle des malades. Et l'idée, effectivement, c'est de renouveler un peu le discours qu'on a autour de cette œuvre. On sait qu'on a des angevins un peu inquiets qui nous disent « mais il va revenir, hein. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ». Qu'il soit rassuré, il va revenir bientôt.
Eh ben, tu fais bien de le rappeler. Merci, Luce. Tu restes avec nous, bien évidemment. On va continuer à en parler on va parler aussi de cet art, de comment ça marche, qu'est-ce que c'est exactement, quels sont les termes aussi, même si on commence déjà à l'évoquer. On fait une pause musicale, on écoute Maro Maro et on revient ensemble juste après. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Une émission qui déménage ce soir, qui déménage des tapisseries. Même on est avec Luce Pintor, la conservatrice du patrimoine de la, des musées de la ville d'Angers, responsable collection textile et tapisserie pour l'intitulé complet. On parle de l'exposition Aubusson Tisse Tolkien. C'est l'exposition qui a lieu en ce moment, là, jusqu'au 8 novembre au musée Jean Lursa. Donc, pour cette exposition, eh ben, il a fallu enlever le champ du monde de Jean Lursa, du coup, qui est retourné à Aubusson, là où il avait été créé. Aubusson, c'est une toute petite ville, en fait, dans la Creuse, hein, c'est ça, Luce?
C'est ça, tout à fait.
Alors, là, j'ai plein de questions. Tu vas peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus sur pourquoi Jean Lursa était là-bas, d'où il vient et comment on se retrouve finalement à avoir, nous, à Angers, le champ du monde. Alors, j'ai une petite idée, mais je te laisse développer la réponse.
D'accord. Tu veux donner la petite idée ou je commence la réponse?
Bah, la petite idée que j'ai, c'est qu'on a la tapisserie de l'Apocalypse à Angers, donc peut-être que ça faisait un écho et que la ville d'Angers s'est dit, tiens, pourquoi pas?
Et bah, c'était une excellente petite idée parce que c'est la raison. Jean Lursa, c'est un artiste qui est originaire des Vosges, qui a commencé sa carrière en tant qu'artiste peintre, qui était intéressé par l'art de la tapisserie. Et qui, au fur et à mesure d'expérimentation, notamment dans l'entre-deux-guerres, a décidé de s'y consacrer de plus en plus pleinement. Alors, comme je le disais en début d'émission, Jean Lursa n'était pas un lissier, ce n'est pas lui qui tissait les tapisseries. Lui, il était peintre, donc il peignait ce qu'on appelle les cartons de tapisserie. Ce sont des maquettes à la taille de la tapisserie finale qui représente le sujet de manière peinte. Donc lui, il a d'ailleurs fondé ensuite après la guerre l'association des peintres cartonniers et son but c'était de renouveler l'art de la tapisserie française qui selon lui s'était égaré à trop à essayer de chercher à imiter la peinture, à devenir un peu trop illusionniste et l'art de la tapisserie avait perdu son originalité et son authenticité en tout cas selon ses termes. Et donc lui, il a eu un choc en fait en 1937-38 quand il a vu pour la première fois les tapisseries de la tenture de l'Apocalypse à Angers et il s'est dit mais c'est bien sûr il faut revenir aux sources de l'art de la tapisserie, c'est-à-dire la tapisserie médiévale où le point de tissage est visible à l'œil nu, où la gamme de couleurs est restreinte et on ne cherche pas à imiter la peinture, on cherche à faire de l'art tissé. Et à partir de là, il décide de se tourner vers des gens qui sont spécialistes de l'art textile. Il va à Aubusson où il y a tout un foyer d'ateliers spécialisés dans la tapisserie de basse lisse. Il y a deux termes dans l'art de la tapisserie, tapisserie de haute lisse et de basse lisse. On ne peut pas voir la différence quand on a les tapisseries sous les yeux pour la simple raison que ça fait référence au format du métier. La tapisserie de haute lisse est faite sur des métiers verticaux, la tapisserie de basse lisse est faite sur des métiers horizontaux. C'est la seconde technique qui est employée à Aubusson.
C'est Lyon aussi qui a été réputé, je crois, pour les tisserands et tout ça, non?
C'est l'art de la soie, c'est le tissage et le travail de la soie.
Un autre domaine.
À Lyon, c'est un autre domaine. Mais donc oui, l'art de la tapisserie à Aubusson était très important. Il y avait une école là-bas, d'ailleurs. Et les artistes lycéens de cette école d'ailleurs avaient un peu les mêmes réflexions que Jean Lursa à cette époque aussi, menaient les mêmes recherches techniques. Et donc finalement, le travail de Jean Lursa et a fortiori le champ du monde, c'est le fruit de cette rencontre entre Lursa, un artiste peintre qui voulait se consacrer à la tapisserie, créer des maquettes pour la tapisserie et pour renouveler un peu l'esthétique de cet art-là, avec des spécialistes d'Aubusson, des artistes lycéens qui ont dit, ben nous on va vous fournir les solutions technique et on va tisser vos tapisseries.
À un moment où, bon, il y a quand même une question d'industrialisation des métiers de l'univers textile. En plus, là, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un art plutôt traditionnel, la tapisserie. Jean Lursa était contemporain de Picasso, du coup, si je ne m'abuse.
Absolument.
Dans des mouvements qui étaient plutôt très modernistes.
Alors ça, c'était une des manières d'essayer de renouveler l'art de la tapisserie. C'était de tisser en tapisserie des peintures de leur art contemporain, c'est-à-dire de l'art de Picasso, de tous ces artistes cubistes ou surréalistes. Mais ça reste quand même la tapisserie qui imite la peinture. Pour Lursa, il fallait vraiment retrouver un langage de la tapisserie qui était aussi dans le symbolisme, dans l'iconographie, à la manière de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Et quant à l'industrialisation, c'était le cas au cours du 19e pour l'art textile, pour le tissage industriel. C'est difficile, voire impossible, de faire de la tapisserie mécanique. Même aujourd'hui, on peut faire de la tapisserie sur des métiers jacquard, mais ça se voit, rien ne peut imiter, en fait, la tapisserie à la main. Et c'est pour ça que ça risque plus perdurer. Ceci dit, ça a perduré avec difficulté. Au tournant des années 90-2000, il n'y avait plus d'école à Aubusson pour enseigner l'art de la tapisserie. Et les lissiers, dans leurs ateliers, ne trouvaient personne pour reprendre, en fait, leur travail. Et donc, ça, c'est un savoir-faire qui a failli disparaître en France. Et la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson a été créée justement pour remettre une formation sur le territoire et permettre de faire perdurer le savoir-faire. C'est la cité, il faut savoir que c'est plus qu'un musée. Il y a une partie musée, mais il y a aussi une partie formation qui se trouve dans les locaux de la cité. Il y a une partie centre de documentation qui retrace toute l'histoire de la tapisserie à Aubusson, mais aussi avec des documents très techniques dont les professionnels viennent s'inspirer là-bas. Et puis enfin, c'est un centre de création. Les tapisseries Tolkien dont on parle ont été tissées dans des ateliers qui se trouvent dans les locaux de la Cité internationale. Et les artistes et les lissiers qui sont choisis ont été choisis par marché, par appel d'offres.
Eh ben non seulement t'as répondu à toutes mes questions, voilà. Et en plus t'as répondu à d'autres questions que j'avais pas encore eues, mais qui voilà, t'as éveillé, enrichi mes connaissances sur le sujet. Je me tourne vers les autres personnes en studio. Je sais que Fabrice, l'invité qui va venir juste après, a posé des questions à Luce en antenne. T'avais peut-être une réaction à avoir par rapport. T'as pas encore vu l'exposition, mais t'as déjà envie d'y aller, toi, pour Tolkien.
Alors pas totalement, oui. J'avais prévu d'y aller. Après, c'est vrai qu'avec mon autre activité artistique, je pense qu'on va avec les autres street artists peut-être essayer de surfer sur le truc jusqu'à novembre.
Vous avez bien raison.
Ah bah vous pouvez discuter hors antenne hein, si jamais il y a des idées. Ah bah
c'est déjà fait. Oui.
Est-ce que toi, Mathieu, tu as des réactions? J'ai l'impression que tu es un peu porté par l'univers de Tolkien aussi. Est-ce que ça t'éveille des choses, des curiosités? Ça te donne envie d'aller voir?
Moi, ça me donne envie d'aller voir, mais dans le cadre avec les enfants, carrément, comme tu l'évoquais, qu'il y avait pas mal de petits ateliers pour le joystick. En tant que directeur de centre de loisirs, je vois aussi un énorme impact que ça peut avoir sur faire découvrir cette culture-là, surtout eux qui sont extrêmement orientés autour essentiellement d'Harry Potter en ce moment. Ça peut avoir un écho, puisque si j'ai pas de bêtises, c'est sorti à peu près en même temps.
Ça peut être un prochain sujet de tissage, hein, pourquoi pas Harry Potter au buisson. Hein.
Bah alors déjà, ils ont poursuivi l'aventure avec la tenture Miyazaki, qui va bientôt terminer là encore. Ils sont en train de terminer le tissage de la tapisserie inspirée de Totoro. Et reste plus à faire une tapisserie sur l'univers de Nausicaa. Et là, il se tourne plutôt vers l'art de la fantaisie, mais dans la bande dessinée française, avec une première tapisserie faite en collaboration avec Philippe Druyer. Donc là aussi, un imaginaire fantaisie très ancré, mais plus français cette fois.
Je me tourne, moi, vers Sidonie et Astrid. Votre regard sur ce format-là, j'imagine qu'Astrid, tu découvres l'idée qu'on puisse afficher des œuvres comme ça sur des tapisseries, non ?
Oui, absolument. Moi, mon seul repère en tapisserie, c'était la tapisserie de l'Apocalypse. Donc, c'est vrai que c'est intéressant.
C'est un bon repère, déjà, quand même.
Oui. Bien sûr. Après, je ne suis pas du tout familière avec l'univers de Tolkien. Je ne connais pas du tout. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant à découvrir, à voir. C'est bien. En plus, il y a des petits ateliers pour pouvoir se familiariser avec cet art. C'est plus que sympathique.
C'est vrai que ça peut être la bonne occasion. Toi, Sidonie, tu es peut-être plus familière de l'univers de Tolkien ou même de la tapisserie, je ne sais pas.
Eh bah, bien, un peu des deux, parce que j'étais déjà venue du coup voir l'autre tapisserie avec des amis, tout ça. Et puis Tolkien, oui, c'est vrai qu'on a regardé en famille tous les films, donc ça peut être cool de les emmener voir ça. Je pense que ça peut faire une petite sortie familiale.
Bah, je vous le recommande.
Bah, j'imagine bien, de toute façon. Luce, tu restes avec nous justement, parce que puisque tu nous le recommandes, tu vas pouvoir nous donner toutes les infos pratiques en fin d'émission. On va parler aussi du déménagement, hein, techniquement, s'il y a eu des choses. Entre-temps, on va entendre Fabrice nous parler du forum emploi et santé mentale. Et encore avant, du coup, tout de suite maintenant, on va parler de jeux vidéo avec Mathieu.
Let's Game, la chronique gaming de Topette avec Mathieu.
Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va refaire un petit sondage sur les différents anniversaires. Non mais cette fois-ci, pas de questions pour vous, je vous rassure. Si vous avez un peu suivi l'actu du jeu vidéo, vous avez peut-être vu passer cette annonce complètement folle, le retour de la console la plus chère de tous les temps. Et je parle pas de la PS5.
PS3.
Neo Geo. Alors oui, là on remonte dans les années 90 quand même. Hein. Cette console mythique, elle revient 35, plus exactement 36 ans après sa sortie. Et autant vous dire que dans le milieu, ça a eu l'effet d'une bombe. Entre les collectionneurs qui l'ont déjà et qui ne voient pas l'intérêt, et les personnes qui n'ont pas pu se l'acheter à l'époque, Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la console coûtait quand même une petite fortune. On était à 4000 francs, soit environ actuellement 1000 euros, si on prend en compte l'inflation. Et les jeux vidéo, ils étaient, eux, à 2000 francs, soit 500 euros, ce qui commence quand même à faire un bon petit billet.
Merci pour la conversion, parce que on n'a pas tous connu les francs ici.
Autant dire que c'était pas une console de salon, mais c'était plus une console de ceux qui pouvaient se le permettre. Et aujourd'hui, sur Internet, sur les différents sites de revente, une Neo Geo, ça se vend entre 450 et 1000 euros. Et si on parle des jeux, tu peux t'accrocher à ton siège, Pierre-Benoît, parce que Metal Slug, il se vend à peu près 28 000 euros. Oui, je te vois faire des grands yeux, ouais. Juste à titre d'information, le distributeur justement de la Neo Geo a fait un post pour annoncer qu'ils avaient déjà dépassé leurs prévisions de vente seulement sur les précommandes. Du coup, je me suis dit, c'est parfait pour faire une petite chronique anniversaire, et pas n'importe lesquelles. On commence par un papy du jeu vidéo, puisque 45 ans au compteur déjà. Hein. Né en 81, un sage, des tonneaux, beaucoup de mauvaise foi.
Donkey Kong.
Donkey Kong, oui. Nintendo lui a rendu hommage avec Donkey Kong Bonanza très récemment. Et franchement, c'est un peu, pour l'avoir fini, c'est un peu comme un Mario, mais avec la possibilité de tout casser. On continue avec les 40 ans, et là on touche du lourd. Petit personnage, tunique verte, tout le monde le confond avec la princesse qui le sauve.
Eh bah c'est... Vas-y Fabrice.
C'est pas Zelda?
Zelda, c'est la princesse,
Link,
justement.
Link.
C'est Link. Dans The Legend of Zelda. Pour fêter ça, une rumeur circule assez intensive, puisque c'est le retour d'Ocarina of Time. Alors, remake, remaster, sorti à l'époque sur N64, qui avait vraiment fait un carton. On sait pas, mais les joueurs, eux, sont déjà prêts, n'attendent plus que cette annonce officielle. Toujours 40 ans, mais cette fois-ci en armure.
En armure?
En armure, ouais. Une femme en armure.
Bah, Zelda, du coup? Non.
Non.
Bah
non. Samus.
Oula.
Ah oui, Samus. Metroid.
Ah, Metroid, oui.
Voilà, Metroid, qui pendant des années, on n'a jamais vu son visage. Et au Japon, impossible de passer à côté d'un autre monument, Dragon Quest. Là-bas, chaque sortie est un événement national, allant même jusqu'à annoncer un jour chômé pour chacune des sorties des jeux de la licence. Entre Dragon Quest 7 Reimagined et Dragon Quest 12 qui se prépare, Square Enix compte bien marquer le coup. Petit détour rapide également, un petit hérisson qui fête ses 35 ans.
Sonic.
Voilà, Sonic. Pour l'instant, on a juste eu des teasers, mais on attend vraiment les annonces officielles. Pour les trentenaires, on va pas revenir sur Pokémon, on en a déjà parlé. Metal Slug qui revient avec la Neo Geo, justement. Bon, le prix a beaucoup diminué puisqu'on est à 80 euros la nouvelle jaquette.
Mais je croyais que c'est lui qui était à 28 000, non? Non,
à 28 000, c'est si t'achèttes le jeu, les jeux d'époque.
À d'époque, ouais.
Là, en gros, avec la Neo Geo, ils vont sortir 10 jeux qui ont fait tourner la Neo Geo, dont celui-là. Il faut savoir que la Neo Geo sera aussi compatible avec les anciens jeux. Donc si on a des anciens jeux et plus de consoles, on peut toujours le faire. Tomb Raider qui fête ses 30 ans.
Bon anniversaire.
Voilà. Avec le premier épisode, enfin, une revisite du premier épisode annoncée à la fin d'année. Pour ceux qui aiment les univers un peu plus dark, on a Resident Evil. 30 ans aussi. Capcom a sorti un nouvel épisode avec Léon, le tout premier, qui s'était nommé Requiem, le re pour la notion de retour. Et puis, il est impossible non plus de ne pas parler de Mario 64. 30 ans cette année aussi, pour notre petit plombier. Et une petite question. Est-ce que tu savais, Pierre-Benoît, qu'il y avait un jour officiel pour l'anniversaire de Mario au Japon?
Où il serait officiellement né dans...
Oui.
Bah, non, je le savais pas. Mais est-ce que la question derrière, c'est de le deviner ou...
Alors, petit jeu rapide, tu prends un papier, un crayon, tu notes Mario en lettres majuscules.
Mario.
Voilà. Alors, et avec un peu d'imagination...
C'est Mario 10 à la fin.
10
octobre du coup. Mardi.
C'est à lire à l'anglaise.
À l'anglaise. Mario.
Donc non tu l'as 10. Bien écrit, mais du coup M-A-R pour marche.
March.
10 pour le 10 en effet.
10 mars. Ok, d'accord.
Voilà. Donc Mario 10 mars, c'est le Mario Day. Comme quoi même le plombier a le droit aussi à fêter son anniversaire. Et je gardais le meilleur pour la fin.
Merci pour le tuyau d'ailleurs.
Dans l'univers de Mario, c'est bien évident. Je gardais le meilleur pour la fin, puisque aujourd'hui, on fête les 34 ans d'une petite boule rose qui gobe pas mal de choses.
Pac-Man.
Non, Pac-Man, elle était jaune, Pac-Man.
Ah mince.
Là, on est chez Nintendo, puisqu'on parle de Kirby.
Bah, on connaît plus Pac-Man, j'ai
l'impression. Aujourd'hui, c'est. Ah, mais Pac-Man, c'est il y a un peu plus longtemps. Hein. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, je vous invite à faire Kirby et le monde oublié, un petit jeu tout mignon. Et voilà, 2026, c'est l'année où le jeu vidéo fête son passé et nous rappelle surtout pourquoi est-ce qu'on y revient toujours. Parce que derrière chaque pixel, il y a un souvenir et souvent quelques heures de sommeil en moins.
Merci beaucoup pour tous ces anniversaires, Mathieu. Et puis on se retrouve dans deux semaines, nous, pour continuer avec des chroniques de Let's Game. Et là, ce soir, maintenant, tout de suite, on continue avec notre deuxième sujet de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Avec la voix de Fabrice, qu'on a beaucoup entendu, qui a été très actif. J'ai l'impression que t'as été Néo Géo, tu t'as connu peut-être
Ouais, non, pas tant que ça en fait. Non, moi je fais partie des cinquantenaires, alors je suis un peu Pac-Man, quoi, voilà.
Pac-Man, d'accord, ok, c'était pour ça que t'avais la référence. T'es pas là pour nous parler du tout de Pac-Man ou de gaming, t'es plutôt là pour nous parler du Forum Emploi et Santé Mentale, c'est le 30 avril, c'est au campus CCI Pierre Cointreau, c'est à Angers, bien évidemment. Alors le terme, le soutien, c'est mettre la réhab au cœur des parcours pro. Je suppose que ce que signifie la réhab, mais tu vas nous en parler bien mieux que moi. Tu as co-organisé, c'est toi qui a initié le mouvement de l'organisation de cet événement. Tu vas nous expliquer pourquoi, quel est le sujet exactement. Je vois qu'il y a énormément de partenaires, donc beaucoup d'institutions qui sont impliquées. C'est un enjeu peut-être important sur le territoire aussi. Ce forum emploi et santé mentale, il consiste en quoi en fait?
Il consiste à essayer de créer des connexions qui ne sont pas vraiment faites ou qui sont à optimiser entre les professionnels de la santé mentale et les professionnels de l'emploi, mais tout compris, hein, c'est-à-dire aussi bien ceux qui sont à leur compte que ceux qui emploient, les RH, etc. Et aussi de prendre en considération même le parcours professionnel dès son début, dès l'apprentissage. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes, ça touche une personne sur cinq, un trouble psy dans la vie. Donc là, visiblement autour de la table, on va être confronté. Et si c'est pas déjà le cas, et donc c'est encore un handicap invisible qui est mal pris en charge. Et donc dans l'emploi, il y a beaucoup de stigmatisation au-delà pour l'embauche, etc. Alors qu'il y a des solutions qui existent, on parle de réhabilitation psychosociale.
La réhab,
qui est un terme encore très employé dans le milieu médical, mais qui existe en fait. Enfin, on a tous un peu notre rôle à jouer là-dedans. Et il y a aussi le rétab, qui est le rétablissement en santé mentale, dont on est tous acteurs d'une manière ou d'une autre, déjà en déstigmatisant.
Alors, bien évidemment, on va parler du sujet de la santé mentale, de l'impact que ça a sur l'insertion par le monde du travail. Le travail, c'est pas juste travailler, hein, c'est aussi un moyen de s'insérer, donc ça a un impact positif socialement, surtout pour les personnes qui sont en situation de trouble psy, comme tu le dis. Que je comprenne bien, du coup, ce forum emploi et santé mentale, l'idée, tu l'as dit, c'est de réunir les professionnels de la santé mentale et les professionnels de l'emploi, de tout type. Est-ce que ça veut dire que ça ne s'adresse pas aux personnes forcément en recherche d'emploi?
Si, en fait ça s'adresse à toutes les personnes ayant un âge de travailler. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 16 ans et être un apprenti, vous questionner sur le trouble psy parce que vous êtes proche, parce que vous êtes personne experte de vécu. J'ai expert de vécu quand on a un trouble psy, puisque pour moi on est tous concernés. Donc si vous êtes expert de vécu, vous avez aussi tout intérêt à y aller pour pouvoir échanger justement avec tous les partenaires qu'on a, assister à des tables rondes, à des ateliers aussi qui aura lieu avec des fresques de santé mentale, avec des rencontrées de manière plus du coup ouverte sans risque de jugement. Et effectivement, ça va réunir aussi bien les professionnels de l'emploi, mais dans le sens large, quoi, en fait. Et on est tous professionnels de l'emploi à partir du moment où on est même salarié, quoi.
Alors, je t'ai pas demandé je t'ai présenté comme co-organisateur de l'événement. Tu travailles dans le domaine, peut-être, ou alors comment s'est créé l'événement?
Eh ben, pas du tout, en fait. Je suis formateur à l'origine. J'ai été licencié en août 2025. Et dans ce cadre-là, moi, comme j'avais le CSP, je me suis dit,
CSP?
Alors, c'est un contrat de sécurisation professionnelle. Okay. Quand vous êtes licencié économique, vous avez ça. Et puis bon, France Travail nous disait d'aller dans les forums. Alors moi, j'avais pas dû comprendre la consigne, du coup je l'organise. Et du coup, l'idée, ça a été suite à un contact que j'ai eu à la CCI. Il disait, mais en fait, on est de plus en plus en difficulté. Il y a énormément de décrochage. Il y a énormément On a des personnes qui sont en grosse situation de handicap, on sait pas trop comment gérer, c'est de pire en pire. Est-ce que vous avez des solutions? Je dis non, moi je suis formateur, je suis pas psy, clairement. Par contre, est-ce que vous avez contacté le CREPSI? Alors oui, on connaît, etc. Est-ce que vous les avez rencontrés? Non. Bon, donc du coup, là, c'est une première connexion. Après, j'ai échangé avec des personnes du Sésame qui disaient, c'est nous qui récupérons les apprentis et tout. Peut-être travailler ensemble, du coup, au bout d'un moment. Donc là, ils ont commencé à bosser ensemble et c'est un peu la... ce qui a donné naissance à cette idée de forum, de se dire que même à travers mon vécu, moi, de formateur, là, j'avais du temps. Et donc, l'idée, c'était... Alors, à l'époque, j'avais demandé à Positive Minders, c'est Positive Minders qui m'avait suggéré cette idée de forum, comme ce qui avait été fait en Normandie. Et donc, en novembre 2025, c'est l'Alliance pour la Santé Mentale et Santé Mentale France qui ont pris le relais du portage de cet événement. Qui est unique en Pays de la Loire, clairement.
Donc voilà, c'est quasiment une première, finalement.
Oui.
Sur la santé mentale, qu'on fasse une définition simple, les troubles psy, qu'est-ce qu'on entend par là? On n'est pas forcément sur, tu as dit, on est tous concernés, on n'est pas forcément sur quelque chose de psychiatrique au sens clinique du terme. Ça peut être des questions de santé mentale, de dépression,
La dépression est un trouble de santé mentale.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut tous concerner, c'est pas, encore une fois, la différence.
Une addiction, pareil. Par les jeux vidéo, il y a des personnes qui sont addictes aux jeux vidéo. Je veux pas stigmatiser parce que c'est pas le cas, mais effectivement, une addiction, c'est un trouble psychique.
Et comment on peut identifier le fait d'être associé, le fait d'avoir un problème psy et une difficulté à trouver de l'emploi ou à s'insérer dans le monde du travail?
Alors moi, je suis proche, par exemple, d'une, il y a l'oncle de mes enfants qui a une schizophrénie et j'ai entendu pendant 10 ans, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout sensibilisé, pendant 10 ans, j'ai entendu, mais de toute façon, t'es schizophrène, tu pourras jamais travailler. Et j'ai vécu avec ça, voilà, avec cette croyance, et au fil, en fait, de me renseigner, etc., y a énormément de personnes qui ont eu un trouble psy, mais qui le disent pas parce que c'est stigmatisant, on entend beaucoup sur les médias, oui, alors la politique schizophrène, ou alors dès qu'il y a un coup de couteau qui part mal, c'est quelqu'un qui a un trouble psy. Donc aller dire à un employeur, bonjour, j'ai une RQTH, déjà quand c'est donc reconnaissance qualité travailleur handicapé, parce que j'ai un trouble psy, un mal au dos encore, vous pouvez adapter un poste, avoir un trouble psy, avoir une bipolarité, des troubles anxieux, etc.
Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait aujourd'hui, la société a beaucoup évolué sur la question du handicap plutôt moteur. On sait que tu parles des mal de dos pour caricaturer, mais les personnes en situation de paraplégie ou tétraplégie, il y a des choses qui sont plus faites, qui sont conscientisées du point de vue recruteur, mais que du côté trouble psy, on est encore peut-être sur des choses qui sont pas assez identifiées.
C'est plus la stigmatisation, en fait. C'est beaucoup plus fun, alors je grossis le trait, beaucoup plus fun de ressembler à Rain Man, qui est un trouble autistique, que de ressembler à l'acteur de Shining qui est identifié comme une personne ayant schizophrénie alors que c'est pas le cas. Ou Split, ou enfin tous les films en fait et toutes les séries Netflix qui sont concernés, il y a beaucoup de stigmatisation autour de ça, ce qui crée de l'auto-stigmatisation. Si bien qu'il y a beaucoup même d'entrepreneurs qui ont un trouble psy et qui n'ont pas trouvé entre guillemets d'autre choix que de créer leur structure. Sauf que quel accompagnement va avec? Comment on peut faire en sorte que des structures puissent déstigmatiser pour mieux accompagner les créateurs d'entreprises, mais aussi les salariés, les apprentis, etc. En fait, on est vraiment les professionnels sont démunis en fait clairement. Alors qu'il y a des choses qui existent.
Il y a des choses qui existent. Oui. Et le forum emploi et santé mentale justement va permettre de rassembler un petit peu tout le monde qui peuvent,
c'est ça,
toutes les personnes qui peuvent porter des questionnements, que ce soit côté,
c'est
employeur,
ça,
ou côté personne concernée par des troubles psy ou qui cherche du travail. Du coup, toutes les réponses sont là. C'est un petit peu ce qu'il faut retenir de l'événement, Fabrice.
Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plein de réponses, il y a des solutions qui existent. L'idée, c'est l'idéal en fait, c'est que les gens quand ils viendront au forum, ils repartiront presque avec autant de questions qui sont venues, sauf que ce seront pas les mêmes.
Des questions, oui, qui vont
des questions pouvoir... qui du coup les amènera à travailler avec les structures, à revoir aussi leur regard sur les troubles psy. Et donc l'idée, c'est à défaut de faire tomber les murs, au moins de faire quelques brèches.
et ses brèches, faire tomber ses murs, tout ça, toutes les infos pratiques, on peut les retrouver où et comment? Est-ce qu'il y a un site internet dédié, un compte Instagram peut-être?
Deux sites internet sur l'Alliance pour la santé mentale ou Santé mentale France, ou alors si vous avez le hashtag FESM Angers, F-E-S-M Angers. Où vous avez pas mal d'informations sur LinkedIn, les réseaux, etc.
Quelque chose à rajouter ou pas, Fabrice, avant de...
Venez nombreux, et puis j'encourage vraiment les entreprises aussi à se déplacer.
Donc le Forum Emploi et Santé Mentale, rapidement Mathieu, si tu veux, le bon micro.
Ouais, juste n'hésitez pas, parce qu'en règle générale, on pense qu'on est seul sur ces trucs-là, et c'est jamais le cas en fait. Il y a vraiment... Enfin, le problème de la santé mentale, c'est quelque chose d'extrêmement ouvert, et... Plus on est seul, plus on va se renfermer sur soi. Il faut surtout pas hésiter à y aller et à en parler. C'est surtout ça le plus important.
D'autant plus que le travail est un vrai sujet, parce que c'est un outil qui permet de se désenclaver. On parle de la brèche là.
Ça permet le rétablissement en santé mentale. Enfin, ça favorise le rétablissement.
Donc c'est important d'en parler, de l'évoquer. Le Forum Emploi et Santé Mentale, c'est le 30 avril 2026, bien évidemment, au campus CCI Pierre Cointreau. Et les informations pratiques à retrouver là où tu l'as dit juste avant, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. Fabrice, le Petrec, co-organisateur du coup de ce Forum Emploi et Santé Mentale. Fabrice qui posait une question très intéressante tout à l'heure en antenne, donc je vais redonner la parole à Luce pour conclure cette émission sur le sujet de l'exposition, je reprends le nom précis, Aubusson, Tis Tolkien. Luce Pintor, tu es la conservatrice du patrimoine de la ville d'Angers, précisément sur ces sujets-là, ça tombe bien. On parlait du déménagement quand même avant de se quitter, ça, techniquement ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop d'inquiétudes, ça va bien se passer aussi dans le retour?
Alors c'est vrai que c'était un gros challenge en raison du format du Champ du Monde, qui est, comme je vous l'ai dit, est assez monumental. En fait, c'est quelque chose qu'on prépare depuis des mois. En l'occurrence, on a passé un marché pour faire intervenir une équipe de 4 restauratrices qui sont venues nous assister. Le décrochage des tapisseries en elles-mêmes a mobilisé à chaque fois 6 personnes de notre équipe technique pour les décrocher. Ensuite, les 4 restauratrices intervenaient pour les dépoussiérer et faire leur constat d'état, vérifier leurs conditions de conservation et leur structure. Et puis ensuite, on les a conditionnées pour les transporter. L'avantage, c'est que à la fois à Angers et à Aubusson, on a quand même développé une certaine expertise dans le domaine de la tapisserie. Donc malgré le volume et malgré le nombre d'œuvres, grâce à cette anticipation et cette préparation, ça, tout s'est très bien passé.
Même si le cœur doit palpiter très fort au moment des mouvements.
Toujours un petit peu.
Évidemment. Le cœur peut palpiter très fort également en admirant l'exposition. Du coup, c'est jusqu'au 8 novembre. Il y a le temps, mais bah allez-y, hein, parce que ça passe aussi très vite. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette exposition, Luce ?
Ce qu'il faut en retenir, c'est que vous allez découvrir l'art de la tapisserie sous un angle contemporain et populaire, avec des couleurs très chatoyantes et quand même des histoires qui ont embarqué des millions et des millions de lecteurs. Donc vous allez les découvrir sous un nouveau jour. J'en profite pour souligner qu'on a travaillé avec de nombreux partenaires, des musiciens pour les événements de concert, mais également toutes les équipes des bibliothèques publiques de la ville d'Angers pour également qu'il y ait des activités autour de la lecture, mais des jeux de plateau notamment, ou des jeux de rôle que vous serez amené à découvrir également lors de soirées spéciales, soit dans les musées, soit dans les bibliothèques.
Et pour les termes que j'ai retenus, teinture, c'est l'ensemble de l'exposition, tapisserie, c'est un élément, c'est ça?
Teinture. Un ensemble de tapis.
Tenture, pas teinture en plus.
C'est ça, tenture.
Tenture. Et c'est du balis ou du haut-lis? Non, c'est ça les
termes?
C'est
de la basse-lis, la tapisserie de basse-lis.
Voilà, donc ça veut dire que c'est horizontal.
Le métier est horizontal. Et d'ailleurs, un métier horizontal est présent dans la salle d'exposition de la salle des malades. C'est un des métiers qui appartenait à un atelier qui a tissé le Champ du Monde.
Et métier,
c'est un métier de basse-lis.
C'est pas en lien avec le Forum de l'Emploi, c'est pas le métier de l'emploi, hein, c'est le métier, non, c'est non. Comme ça qu'on appelle ce qui permet de tisser.
Exactement.
Bon, pour le reste des termes techniques, vous demanderez à Luce directement si elle est par là sur l'exposition. Merci beaucoup, Luce, d'être venue dans Topette ce soir. Je rappelle
Merci
que tu es conservatrice du patrimoine, responsable collection textile et tapisserie des musées de la ville d'Angers. Je vois que Sidonie s'est emparée du micro, peut-être pour dire Topette, et à demain.
Tout à fait, Topette.
Et bah 18h10, prenez soin de vous, ciao.
Allez, ma wo, ma wo. Olá, Luacido, Tonu.